Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Prise unique, des conneries alternatives, de vente, échange, vêtements et autres, des mini-magasins alternatifs de disques rock, de fin de série, etc., etc. La ville a beaucoup de chômeurs, SDF, les associations pontois qui les aident ne chôment pas. Beaucoup d'alcooliques, la bière a remplacé le Beaujolais, la drogue, le tabac. La prostitution est énorme, mais pas chère, à cause de la concurrence. Les restaurants sont remplacés par des kebabs et McDo toutes sortes. Lyon est devenue une véritable cour des miracles. Les églises sont fermées et deviennent des centres culturels alternatifs, dirigés par Monseigneur Yoga, qui est devenu le primat des Gaules. C'est un vieux monsieur maintenant, mais qui s'habille toujours comme les jeunes des banlieues. Tous les dimanches à la cathédrale Saint-Jean, il dit sa messe en rappant. Plus tu niques ta mère, plus tu seras heureux. Alors nique ta mère, c'est niquer Dieu. Dieu a le cul qu'il faut. Oui, mon pote, je suis le mieux, le plus beau, parce que Dieu, des chrétiens, du Coran et du bouddhisme. Je suis communiste, donc je nique. Sur le plan des réalisations francs blancs, eh bien ça commence. Ça a commencé ce plan. Il faut éliminer tous les conservateurs de toutes sortes et les jeunes nanars, etc. Où se sont emparés de la ville, l'occupent et tiennent la municipalité en otage en faisant des manifestations journalières devant la mairie centrale. Et puis, le jeune du maire, ce jeune con qui crache dans la soupe, et de leur côté, le jeune homme, ou cet homme plutôt de 30 ans, qui n'a jamais rien fait de sa vie, qui joue aux jeunes, ados, vit chez ses parents et leur demande pension, puis leur crache à la figure. Les parents n'osent rien faire parce qu'ils ont honte et ont peur qu'on les traite de mauvais parents et que l'on braque tous les projecteurs sur la famille. Donc, ils subissent les injures, les attaques, le blocage de la ville par leur fils, ce jeune vieux débile. C'est un démoneur et dire que l'on prend ce jeune un peu pour un quelqu'un de bien intelligent alors que c'est un névrosé qui a mal digéré son Œdipe. Et puis, les jeunes de 14 à 25 ans l'aiment bien. Parce qu'un vieux qui les prend au sérieux et a les mêmes idées qu'eux et leur goût qu'eux sur leurs parents, les trouve formidables. Ils disent enfin qu'un vieux n'est pas con. Les enfants, leur chef, et font ce qu'il leur dit. Ce jeune n'a pas digéré son Œdipien. Et en plus, il est homosexuel qu'hétéro. Ce qui le pousse à rechercher et à avoir près de soi des jeunes et à les flatter pour les séduire. Bien sûr, il n'ose pas passer à l'acte, aller trop loin. Il aurait honte et même serait traité par les jeunes gens et injurié de pédé. Alors il joue les hétéros et très viril. D'ailleurs, les jeunes ne supporteraient pas d'être dirigés par un seul pédé qui cherche à mettre les mains entre leurs jambes. Mais il lui arrive de donner des tapes qui se veulent viriles et qui sont des caresses. Elles lui apportent de la jouissance et, une fois seul dans son lit, il revit le geste qu'il a eu de toucher le jeune et ça lui fait jouir. Il lui caresse la nuque, lui défait ses cheveux, lui donne une tape sur les cuisses, à l'épaule, rarement la main à la taille, c'est rapide et ça lui suffit. Bien sûr, il a sa copine, qui n'est jamais la même, et qui est toujours une fille paumée, alcoolique et droguée, habillée de vieillerie, pull et pantalon noir. Lui aussi s'habille comme ça. Mais tout en jouant les pauvres, il a le culot de se faire acheter par ce salaud de père capitaliste, etc., comme il le dit, une moto de 500 000 francs. Les parents du pauvre jeune habitent Charbonnières, une belle villa. Le père est dans la chimie. Donc, ce jeune con bloque la ville, la squatte, en fait son terrain de jeu. Et le groupe Vamban ne peut rien faire qu'attendre qu'il devienne adulte ou qu'il accepte son homosexualité. En arrivant à Lyon, Julien demande : nous allons l'y loger où ? Gilbert lui dit : je crois qu'il y a l'hôtel Royal, place Bellecour. Enfin, il doit être potable, je ne sais pas. Ils y vont. Oui, l'hôtel est encore debout. Mais la place, disons que c'est l'Afrique, le marché aux voleurs. Et ils vont arrêter la voiture devant l'hôtel. Porte de voiture. Prennent leurs bagages. Et vont rentrer dans l'hôtel. Petit îlot de paix, c'est propre. Il y a la moquette à terre, salon 1930, chic. Plus loin sans la manger, dans le salon il y a la colle. Ils vont à la banque. À la banque, le concierge, habillé d'un uniforme bleu et galon or, un homme de 30 ans, cheveux blonds. Vous désirez, messieurs ? Gilbert lui dit : nous désirions deux chambres communicantes, s'il vous plaît. L'homme lui demande : vous avez réservé ? Gilbert lui dit : non. L'homme regarde sur son ordinateur. Et lui dit : chambre 33 et 34. Pour combien de jours ? Gilbert lui dit : au moins une semaine. À payer d'abord. J'avance. Gilbert lui tend sa carte. L'homme la met sur l'écran pour prendre l'argent et demande à Gilbert de mettre son pouce. Puis, il lui rend sa carte. Ensuite, il appuie sur une sonnette. Un charmant petit groom en costume bleu il doit avoir dans les 15 ans, blond et parfait de sa personne. Le concierge lui dit « Chambre 33 et 34 ». Le groom leur prend leur valise. « Suivez-moi, messieurs. » Et il les mène jusqu'à l'ascenseur. Arrivés au deuxième étage, ils sortent de l'ascenseur. Suivent un couloir avec de la moquette beige. Le groom ouvre la chambre 33. Chambre 33, ils entrent. La chambre est meublée du 15. Elle est grande et très claire. Une fenêtre donne sur la place Bellecour. Comme ça, on se croit en Afrique. Une porte donne dans la salle de bain. Un marbre rose. Gilbert demande à Julien, tu veux celle-ci? Julien lui dit, n'importe laquelle, elles doivent toutes être très bien. Gilbert lui dit, eh bien, prends celle-là. Le petit groom leur montre l'autre pièce. Qui est meublé Louis XVI. La salle d'eau, la salle de bain est de marbre rouge. La vue est la même. Le groom leur dépose les valises dans la chambre et s'en va. Gilbert et Julien vont chacun dans leur chambre. Une femme de chambre frappe à la porte pour les aider à ranger leurs affaires. Aider à défaire les valises, mettre des draps, mettre des serviettes de bain marron. Puis elle leur demande s'ils désirent manger, boire. Ils ont tous les deux la porte communicante ouverte pour aller d'une chambre à l'autre. Ils sont tous les deux dans la chambre de Gilbert. Gilbert dit, amenez-nous une omelette, des fruits et du Vichy. Merci. Une fois qu'ils aient mangé ensemble dans la chambre de Gilbert, se sont reposés, ont pris un bain et se sont allongés. Le lendemain matin, ils prennent leur petit déjeuner dans la chambre de Gilbert, qui devient le lieu de réunion. Julien lui demande, que va-t-on chercher? Gilbert lui dit, une trace, quelque chose qui nous montre le lien qu'il y a entre les Pontois, Poncet et les Dieppe et nous. Julien lui demande, allons chercher ça où? Gilbert lui dit, je sais pas, faut peut-être aller sur le lieu où ils ont vécu, après, nous verrons. À leur petit déjeuner, ils demandent au concierge l'adresse de la maison des Pontois où sont leurs usines. Le concierge la leur donne. Et Julien et Gilbert vont voir la maison des Pontois qui se trouve sur les hauteurs de Fourvière. Dans une rue qui monte et qui est très calme. Elle domine la ville et en même temps un côté campagne. Ils y vont en voiture. C'est une rue qui monte et qui va jusqu'au pied de la tour. Elle monte beaucoup. On domine la ville et tout ok. Et tout un côté, il y a des petites maisons. Et de l'autre côté, il y a un grand mur qui ferme une propriété abandonnée où l'on voit à travers des trous dans le mur des herbes folles. C'est là que les Pontois habitaient, une magnifique propriété dans un grand parc. Qui allait de la tour jusqu'en bas des quais. Ils vont arrêter la voiture devant le portail qui est fermé et rouillé. Le mur est haut, la rue est étroite et tranquille. Ils sortent de voiture. Gilbert dit, ça a l'air abandonné. Il y a à droite, à côté du portail, sur le mur, une plaque en marbre qui dit que Félicien Pontois a habité ici. Julien lui dit, je croyais qu'on avait fait un musée. Gilbert lui dit, moi aussi, sinon nous verrons bien. Rien. Sonne encore une fois. Et tout à coup, c'est ouvert en faisant un bruit énorme. Apparaît un vieil homme, chauve sur le crâne. Et le peu de cheveux qu'il a sont blancs, tête osseuse, maigre, grand, habillé en jardinier. Il demande, qu'est-ce que vous voulez? Gilbert lui dit, excusez-nous monsieur, mais nous désirions s'y visiter la maison. L'homme lui dit, elle n'est pas visitée. Gilbert lui dit, j'ai cru comprendre que c'était un musée. L'homme lui dit, failli être un musée, mais un notaire est venu. Et a dit que les héritiers ne le voulaient pas. Gilbert est surpris. Les héritiers? Je croyais qu'il n'y en avait pas. Jardinier lui dit. Personne ne le savait. Et puis, il y en a un. Alors, la maison doit rester comme ça. Et moi, je suis jardinier. Je reste ici. Je ne sors presque pas. Je reste enfermé ici. C'est calme. On est bien. Gilbert lui demande. Je peux voir la maison? L'homme lui dit, pourquoi faire? Eh bien comme ça, je n'ai rien touché. Fibert lui dit, juste voir la façade. L'homme le fait rentrer. Au milieu de grandes herbes, garde centenaire, se trouve la maison. Elle semble délabrée. Le jardinier leur dit, j'ai laissé, comme l'a laissé le fils. Fibert lui demande, vous ne recevez jamais de visite? Non, jamais. Elle a été oubliée. Julien lui demande, mais puisque vous restez ici, on doit vous payer, non? Oui. Qui? Je ne le sais pas. C'est le notaire qui met la somme sur mon compte. Et votre notaire, qui est-ce? Il lui répond, Maître Chenet. Vous voulez pas nous montrer la maison? L'homme lui dit, non. Ce n'est pas un musée. Fibert lui dit, bon, eh bien merci monsieur. Et il le quitte. L'homme referme le portail. Il entre dans la voiture. Fibert dit à Julien, dis donc, tu feras un bon détective. Julien lui dit, il suffit de poser les bonnes questions, les questions essentielles. On connaît le nom du notaire, qui connaît le nom de celui qui se dit l'héritier des Pontois. À peine débarqué à Lyon, on sait déjà beaucoup de choses. Et Fibert met la voiture en route. Gilbert demande, et pour connaître l'adresse de son notaire, Julien lui dit, facile, tu regardes les notaires de Lyon sur ton ordinateur portable que tu as amené. Et il s'en retourne à l'hôtel. Ils vont dans la chambre de Gilbert voir sur l'ordinateur l'adresse de Maître Chenet. Ils la trouvent. Elle est rue Sully dans le 6e arrondissement. Ils y vont. Rue Sully est une petite rue bourgeoise, bien coquette, qui à certains endroits a un côté vieille France, ce qui est rare. Le cabinet du notaire se trouve dans l'immeuble qui a été construit à la place du bon vieux cinéma, le Sully. L'immeuble est neuf, blanc, moderne, mais discret. De l'autre côté de la rue Sully, de l'immeuble, se trouve un décor de rue 18e siècle, très vieille France et séduisant. Il y a une église, une école et une place. Le tout dans un décor du meilleur goût et d'une autre époque, tout à fait Louis XV. La rue Sully n'est pas très longue et calme. Il arrête sa voiture devant un bel immeuble moderne de classe. Sorte de voiture. Et monte les escaliers pour aller dans l'allée. Qui est clair et de marbre. Il regarde sur les boîtes aux lettres et trouve le cabinet du notaire qui est au premier étage. Ils vont prendre l'ascenseur. Arrivé au premier étage, ils vont sonner à la porte du notaire. Il ouvre une femme dans les 40 ans, grande, mince, cheveux blonds, visage un peu dur, habillée d'une robe marron. Vous désirez ? Gilbert lui dit, nous désirions voir Maître Chenet. Elle leur demande, vous avez rendez-vous ? Gilbert lui dit, non. Elle leur dit, eh bien, c'est impossible. Il lui dit, je vous en prie, madame, nous venons de Paris. C'est pour l'héritage Pontois. Dites-le-lui. Elle est surprise. Héritage Pontois ? Oui. Bien, je vais voir. Elle les laisse dans l'entrée. Puis, revient. Et leur dit, Maître Chenet veut bien vous recevoir. Entrez. Ils entrent. Elle ferme la porte. Venez. Hors d'entrée, moquette bleue, mur crème. Elle ouvre une pièce, un petit salon Louis XV avec fenêtre qui donne sur la rue si jolie, ou plutôt le coin de rue si jolie. Elle leur dit, entrez, asseyez-vous. Ils vont s'asseoir sur des chaises, l'un en face de l'autre. Gilbert dit, je vais enfin savoir quelque chose. Une porte s'ouvre et apparaît un homme grand, gros, cheveux gris, l'air brave, costume croisé marine. Il se lève, il va vers eux. Il leur dit, vous avez demandé à me voir. Je suis Maître Chenet. Gilbert lui dit, vous monsieur, c'est pour quel sujet? Gilbert lui dit, ce sujet est des Pontois. Vous êtes de la famille? Non, mais nous aimerions savoir qui est l'héritier des Pontois. Le notaire leur dit, allons dans mon bureau. Et ils le suivent. Entrez. Grande pièce, deux vitrées, tapisserie crème, parquet Louis XV, meuble Louis XV. Il leur dit, asseyez-vous. Ils vont s'asseoir en face du bureau. Et lui va s'asseoir à son bureau. On demande, qui êtes-vous ? Gilbert lui dit, je suis Gilbert Framblanc et mon ami c'est Julien Sève. Notaire lui dit, et en quoi les affaires Pontois vous intéressent ? Gilbert lui dit, nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu Lionel Morvetti.